Chapitre 33. Une nuit sans sommeil pour Charcot. Lucie qui pleure dans ses bras, toute tremblante, parce que les images de la petite housse noire lui reviennent au visage comme une mauvaise vague. Cependant, contrairement à lui, il finit par s'endormir. À bout, il se leva à 4 heures du matin et resta seul, allongé sur le canapé, face à des reportages animaliers dont il avait coupé le son. Il était crevé, éreinté, et son esprit ne plia qu'à 6h10 du matin. À 7h, Lucie était debout. Charcot lui suggéra de rester à l'appartement pour se reposer un peu, mais elle lui dit qu'elle se sentait mieux, prête à aller travailler, et avala même un copieux petit déjeuner, sans faire la moindre allusion à ce qui s'était passé la veille. De son côté, le commissaire fit comme si tout allait bien, but juste un café très fort, s'habilla et parvint même à sourire tandis qu'ils échangeaient quelques mots. Au moment de partir, il lui annonça qu'il ne se rendrait pas au bureau avant midi. Il voulait faire un détour par les administrations pour ses histoires de papiers fichus. Ils se quittèrent sur un baiser silencieux aux alentours de 8h. Tandis que Lucie prenait la route du 36, le commissaire se dirigeait non pas vers la sous-préfecture, mais vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier, à 50 km de Paris. Encore un mensonge, un de plus. Le flic des services administratifs, Félix Boulard, connaissait du monde et avait pu lui obtenir un entretien avec Loïc Madère à 9h. La prison, qui datait de 2005, ressemblait à un grand navire de guerre échoué sur une mer de glace. En plus d'une maison d'arrêt d'une capacité de 600 places, cet impressionnant bloc de béton abritait 200 taulards incarcérés pour des longues peines. Charcot se présenta au poste de sécurité, avec son passeport intact car resté dans un tiroir de l'appartement lors du voyage à Chambéry, en compagnie d'hommes, de femmes et même d'enfants venus rendre des visites. Des familles déchirées, privées d'un frère, d'un père, d'un mari. Une fois dans la cour, certains individus se dirigèrent non pas vers les parloirs, mais vers des bâtiments neufs plus en retrait. Discutant brièvement avec les surveillants, Charcot apprit que la prison expérimentait des unités de visite familiales, permettant aux proches de se retrouver dans l'intimité de petits appartements situés à l'intérieur même de l'enceinte pénitentiaire. En compagnie d'une dizaine de personnes, Charcot fut orienté dans la salle commune des parloirs, un ensemble de tables et de chaises où les visiteurs se trouvaient face aux détenus, sans dispositif de séparation. Toutes les catégories sociales, toutes les couleurs se mélangeaient ici. Pas d'intimité, aucune différence. À 8h55, il s'installa à l'endroit qu'on lui indiqua. À 9h, les surveillants firent entrer les prisonniers les uns derrière les autres, lentement, avec calme. Au milieu des grincements de pieds de chaises et des accolades, le flic était tendu, mal à l'aise. Et pour cause. Il n'était pas ici par sa propre volonté. On l'avait guidé depuis le début. Juste un pion, poussé par un individu invisible qui jouait avec lui. Il se redressa lorsqu'un type s'installa en face de lui. L'homme était grand, maigre, vêtu à la mode, avec un jean large et une veste de survêtement de marque. Une belle gueule, estima Charcot, avec des traits fins, de longs sourcils sombres et des yeux légèrement bridés, laissant deviner une lointaine origine asiatique. Malgré la rudesse de la vie qu'il devait mener en prison, il ne faisait pas son âge. Loïc Madère ? L'homme acquiesça. On m'a annoncé qu'un Franck Charcot voulait me parler. Un flic ? Qu'est-ce que tu veux ? Madère était assis avec nonchalance, les mains dans les poches de sa veste. Charcot avait posé les siennes à plat devant lui et scrutait son interlocuteur avec attention. Loïc Madère, 45 ans, condamné à 20 ans pour le meurtre d'un bijoutier en 2006. Vous n'y êtes pas allé de main morte. 2 balles de 357 dans le buffet, avant de vous payer une belle course-poursuite en banlieue et sur le périph. On se croirait presque dans un film. Le taulard jeta un œil tranquille au surveillant qui passait dans les allées, la bouche serrée. C'est bien joli ta démonstration, mais primo, je la connais par cœur, et secondo, ça ne m'explique toujours pas ce que tu veux. Le commissaire changea de ton. Tu sais parfaitement ce que je veux. Madère secoua la tête. « Ah non, désolé. » Charcot soupira. « Très bien. Faites rafraîchir la mémoire dans ce cas. Je recherche un type qui est venu te rendre une petite visite ces derniers jours. Je pourrais obtenir son identité en consultant le registre du poste de sécurité, mais j'aimerais entendre son nom de tes lèvres et que tu me dises ce qu'il a à voir avec toi. Et pourquoi je ferais ça, hein? Qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» Charcot y alla au bluff. « Tu gagnes juste le droit de ne pas être impliqué dans une nouvelle affaire de meurtre. » Madère éclata de rire. « Impliqué dans une affaire de meurtre? Et comment je serais impliqué, hein ? Regarde autour de toi, amigo. Je suis en tôle et il me reste 15 ans à tirer, tu comprends ça? Le nom, s'il te plaît. Le prisonnier haussa les épaules. Tu te gourdes, mec. Personne n'est venu ici. Ton type, il va falloir que tu le cherches ailleurs. C'est quoi ton histoire de meurtre, au fait? Discutons un peu, on a une demi-heure à passer ensemble. Les journées sont longues ici, et une visite est toujours la bienvenue, même celle d'un flic. Charcot sortit de sa poche une feuille pliée et l'étala sur la table. Parle-moi de ça. Madère leva le papier devant lui, contempla le graphique avec les différents pics bleutés et le rejeta. Pourquoi mon nom est marqué en bas? Qu'est-ce que c'est? Ton ADN. Pour être plus précis, l'ADN fraîchement prélevé dans ton sperme. Charcot vit Madère blanchir. Il se pencha plus encore vers l'avant. J'en ai retrouvé un échantillon dans un tube en verre au fond de la cabane d'un tueur en série que j'ai dézingué il y a 9 ans. Ton sperme, il ne s'est pas téléporté d'ici à là-bas. Tu t'es astiqué dans les chiottes ou je ne sais où, et tu t'es forcément arrangé pour refiler ta semence à quelqu'un. C'est le nom de ce transporteur que je veux. Charcot avait l'impression que Madère se décomposait en face de lui. Ses lèvres s'étaient mises à trembler. Mon sperme, c'est pas possible. Je te garantis que si. Donne-moi un nom. L'homme se leva, une main au front, et poussa sa chaise sur le côté. Un surveillant le lorgna attentivement, et de ce fait, le taulard se rassit. Charcot signala au gardien que tout allait bien, et revint à son interlocuteur. Alors? Quand tu as trouvé le sperme? Vendredi dans la nuit. Il était enfoncé dans de la glace pour éviter sa dégradation. Madère plaqua ses deux mains sur son visage et souffla entre ses doigts. Gloria. Gloria Novik. Charcot fronça les sourcils. Un signal venait de s'allumer dans sa tête. La seule Gloria Novik que je connaisse possède une cicatrice qui part de l'œil droit jusqu'au creux de la joue, fit le commissaire. Elle la doit à un ancien client un peu pervers, du temps où elle faisait le trottoir. C'est elle, souffla Madère. Alors c'est toi le fameux flic qu'elle connaît bien? Ça me revient maintenant, elle m'a déjà parlé de toi. Shark. Le commissaire se frotta les lèvres, inquiet et terriblement nerveux. Gloria Novik était une ex-prostituée qu'il avait arrachée à la rue, une dizaine d'années plus tôt, parce qu'elle avait aidé à résoudre une affaire d'homicide et s'était mise en danger. Avec Suzanne, il l'avait retapée jusqu'à ce qu'elle trouve un job et soit capable de s'assumer. Suzanne et elle étaient alors devenues amies. Même s'il ne l'avait plus revue depuis la mort de sa femme, Gloria était venue à l'enterrement. Charcot avait toujours gardé une affection particulière pour elle, comme celle que l'on peut ressentir à l'égard d'une petite sœur. Il considéra Madère dans les yeux. Il n'y comprenait rien. Ce serait elle qui aurait transporté ton sperme là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Madère se releva, incapable de tenir en place. On est allé dans l'unité de visite familiale, rien qu'à deux, mercredi dernier. On nous a laissé un quart d'heure ensemble, on a baisé à la va-vite. Elle est repartie juste après. Mon sperme n'était pas dans un tube, il était en elle. Il se pencha et agrippa Charcot par le col. C'est quoi ce bordel?